Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans On joue la prolongation, l'émission sportive de Radio Judaïka, une émission que vous retrouvez sur le 90.2 FM, sur le site radiojudaïka.be, sur l'application Radio Judaïka, et vous pouvez même nous suivre en vidéo sur la page Facebook de la radio. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons débriefer cette journée de Jupiler Pro League sur et en dehors du terrain avec les événements qui se sont passés au RWDM ce week-end. On fera également un petit tour sur les championnats européens. Et puis voilà, on va commencer tout de suite.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouce, vous êtes un salaud.
Reconnaissez ce générique, c'est celui qui annonce une nouvelle émission. On joue la prolongation ce lundi 22 janvier 2024, la deuxième émission de l'année, de la saison. Et bien aujourd'hui, on va commencer cette émission par présenter notre intervenant. Vous avez l'habitude maintenant de le retrouver tous les lundis soirs pour débriefer l'actualité footballistique du week-end. C'est Alexandre Demeter de l'agence Sportimize. Salut Alexandre. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis j'espère que tu as hâte de commencer ce débrief de la journée de Pro League. On en a des choses à dire, hein, et elles sont pas toutes, en fait, pour tout te dire, Alex, j'avais oublié d'allumer ton micro, donc bonsoir.
Rebonsoir.
Rebonsoir, voilà, donc je le disais, on va donc débriefer cette journée de Jupiler Pro League, je le disais, donc on en a des choses à dire, on va commencer tout de suite, hein. C'est l'heure du coup d'envoi à 20h03. On va parler tout de suite de la Pro League. Alors on va commencer pour donner l'eau à la bouche à nos auditeurs. Nous reviendrons avec un invité à partir de 20h30 sur la situation actuelle au RWDM. Nous serons avec un supporter du club bruxellois. On le rappelle, donc le match arrêté hier à la suite de jets de projectiles et de pétards sur le terrain au stade Edmond Martens. On va commencer par l'autre club de la capitale, c'est Anderlecht qui fait un but partout, qui marque un coup d'arrêt dans sa marche en avant, un but partout contre l'OHL et un fautif principal, le gardien Kasper Schmeichel.
Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc,
c'est vrai que cette saison, c'est pas fameux.
Depuis son arrivée, il est décrié. Il n'a pas pris de points. Il a fait perdre des points. On pense au match contre le Standard. Les deux matchs face au Standard, d'ailleurs, où Anderlecht ne prend que 1 sur 6. Et on reviendra sur le Standard après, c'est quand même très très peu. Et là encore, il perd des points. Il y a eu plusieurs buts en fait, même au HL quand ils se sont déplacés à Anderlecht. Le but qui marque, c'était vraiment évitable. Et on se souvient ce que Oufkens avait dit, il suffit de tirer dans les coins et on marque des buts. Et c'est plus ou moins ce qui se passe malheureusement pour les Mauves. Mais est-ce que ce problème en cache d'autres? Ça, c'est la question, surtout en ce mois de janvier. Il y a un double derby qui arrive jeudi-dimanche, face à l'Union, Coupe et Championnat.
Ouais.
Et d'après mes sources, Maxime Dupé partirait cet hiver.
Oui, il va à Nice, si j'ai bien, si j'ai bien suivi.
Donc, en tout cas, il veut partir. Vu la situation, vu ce qu'on lui a fait, on lui a promis Monts et Merveilles en début de championnat. Il n'a pas démérité pendant ni la préparation, ni le début du championnat. Et après, il est remplacé par un ami ou un Danois avec la connexion danoise. Donc, ce mois de janvier pourrait bien être pénible et pourrait... réannoncer une descente aux enfers pour les Mauves.
Ouais, pour revenir sur ce cas précis de Kasper Schmeichel, on a vraiment l'impression qu'il joue grâce à son nom. Et que les gloires d'antan de ces temps en première ligue, notamment avec Leicester, sont vraiment passées. C'était un coup, ça fonctionne pas, il faut arrêter les frais là, non?
Oui, mais tu vas faire quoi? Tu vas mettre ton gardien titulaire qui a la confiance sur le banc, tu vas le remplacer par un gardien qui va partir cet hiver encore apparemment, qui va remonter, qui est apte à défendre les cages des Mauves. Ça, c'est la grande question. Surtout que tu avais un Henrik van Kombrugge, certes, qui avait un contrat très onéreux. Tu l'as laissé filer à Genk. Tu te retrouves avec un gros problème dans ta première ligne.
Ce match nul, il change pas grand-chose pour Anderlecht et pour le championnat. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui, cette journée-ci. Anderlecht reste deuxième avec 43 points. C'est 5 points d'avance sur le troisième qui est la Gantoise. Il n'y a pas péril en la demeure.
Ça dépend. Anderlecht ne le criait pas haut et fort, mais vous voulez quand même titiller l'Union pour le titre, ou en tous les cas se mettre en position favorable pour les playoffs. Quand tu perds des points à OHL, tu n'es pas en position favorable.
Ouais. Mais est-ce qu'ils étaient attendus là, au début de l'année?
Non, mais c'est pas, l'Union n'est pas attendue là non plus. Par contre, une fois que tu as une opportunité, tu dois jouer ta carte à fond. Et là, tu, comme je disais, tu risques en fait d'avoir un mois de janvier très noir. Avant de commencer ce mois, tu es deuxième, tu as des vues sur cette première place, tu as cette Coupe de Belgique, tout est rose, tout va bien. Tu commences à OHL, tu perds des points, tu as ton gardien numéro 1 qui fait des bourdes, tu as ton deuxième qui veut partir, qui fout le bordel, sûrement un peu dans ton vestiaire aussi, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, parce que cette situation est pesante. Et pour d'autres joueurs, ils peuvent se dire aussi, finalement, je peux jouer ou je peux m'entraîner du mieux que je peux. Si les dirigeants ne font pas confiance, je ne jouerai pas. Donc, il y a des problèmes latents, là, et je dis, en l'espace des 7 prochains jours, ça peut virer du tout au tout à Anderlecht.
On n'en a pas parlé, mais le but marqué par Anderlecht et Louis Patrice, il l'a lui-même avoué, il a déclaré que c'était un centre manqué. Ça reste un des plus beaux buts de la saison pour l'instant en Jupiler Pro League.
Oui, si tu veux. Oui, je n'ai jamais été très fan
chanceux.
De ce genre de but.
Oui, c'est chanceux.
C'est un bête centre, finalement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pense de Thorgan Hazard, qui est aussi l'autre grosse recrue de ce début de cette année à Anderlecht? On a l'impression qu'il a un peu du mal à prendre ses marques.
Beaucoup, on dirait.
Beaucoup.
Et après, tu as cette blessure et c'est très compliqué quand tu n'as pas eu de préparation. Et que tu es victime de blessures à répétition qui te poussent hors des terrains, c'est très compliqué de trouver ta place dans une équipe qui tournait, en tous les cas, à mi-saison, on va dire. Donc, pour lui, il a fait certains matchs où il a fait ses matchs, et d'autres, il est passé complètement à côté, malheureusement.
C'est pas une question de niveau. On l'a vu à Dortmund, on l'a vu en équipe de Belgique, c'était il y a un petit temps. Mais c'est pas une question de niveau. Il a largement le niveau pour faire des bons matchs en Pro League.
Oui, mais c'est pas, on parle pas de niveau, on parle de santé physique, on parle de conditions physiques, on parle de concentration, on parle d'envie. On va pas mettre en doute son envie si tôt dans le rush final vers les playoffs et en playoffs, mais c'est un des symptômes qui est de nouveau inquiétant dans la maison Mauve.
Et pour revenir sur Thorgan Hazard dans la dernière heure, Yves Tildeman qui dit Mario Strunkus en forme est plus dangereux qu'un Thorgan Hazard amoindri. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Strunkus a déjà montré de belles choses. Après, c'est ce que je disais là tout de suite, le coach fait des choix. Est-ce qu'ils sont justifiables? Est-ce qu'ils sont justifiés? Ça, c'est une autre question. Tant que tu gagnes, en fait, en tant que coach, tu auras raison. Une fois que tu commences à perdre des plumes, que tu commences à perdre des points et que ça commence à s'effriter autour de toi, là, tu commences à avoir tort. Et là, la DH et les autres médias flamands, Nieuwsblad, Sport Wereld, c'est les premiers qui vont sauter sur Anderlecht, critiquer Anderlecht, se fait vendre, remettre en cause les choix de l'entraîneur, fait vendre. Même si là, c'est justifié. Mais Van Nazebroek l'avait dit, l'entraîneur de Gand, il l'avait dit il y a quelques semaines aussi. Il trouve ça hilarant que des journalistes se permettent de donner des conseils à des coachs parce que les journalistes ne sont pas là tous les entraînements, ils ne voient pas tout ce qui se passe la semaine non plus. Et tu peux avoir des joueurs qui s'entraînent à fond toute la semaine, qui sont focus toute la semaine, et finalement le week-end, ils passent à côté de leur match. Ça peut arriver, et ça arrive dans beaucoup de clubs d'ailleurs.
On part d'un autre côté de la capitale, c'était hier au Parc du Den, l'Union qui s'impose 2-1 face à Saint-Trond, un but retourné à la 97e minute, encore une fois l'Union qui se sauve dans les derniers instants.
Bah, tu as vu le match.
J'ai vu la première mi-temps.
Tu en as pensé quoi?
Bah, c'était très insipide, c'était pas très très agréable à regarder comme football. Et la deuxième mi-temps, moi j'ai donc comme j'ai dit, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que on a l'impression que cette équipe a beau être bousculée, elle ne lâche rien et elle y arrive. Je sais pas ce que toi t'en penses, même si c'est pas peut-être pas tout le temps le plus beau football de Belgique, on a l'impression que ils sont sur un espèce d'état d'esprit où rien ne peut leur arriver, j'ai l'impression.
Mmh, oui.
Parcours de champion, presque. Enfin, quasi. 51
chance de,
points.
Chance de champion.
Chance de champion. Aussi. 51 points le 22 janvier, c'est une belle perf quand même.
Mmh. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs en Europe qui font aussi bien, à part Leverkusen peut-être.
Mmh.
Mais oui, c'est... Après, je me pose des questions. 8 minutes d'arrêt de jeu. Il y a quand même beaucoup de choses qui plaident en la faveur. Mais. Après, cette abnégation, c'est aussi cette culture de gagne, c'est une culture de bas salaire et de grosses primes qui pousse les joueurs finalement à se dire quitte à faire match nul, autant aller gagner, parce qu'on a la différence pour nous, elle sera énorme en gagnant, tandis que match nul ou perdre, on n'a aucune différence. Donc, ça te pousse un tout petit peu à te donner tellement à fond pour avoir ces 3 points que ça te réussit dans de nombreux matchs dans les dernières secondes.
Justement, tu disais la chance du champion. C'est Castromontes qui le déclare, qui l'a dit après le match. Il dit il faut de la chance dans ces matchs-là, tout en relativisant, en rappelant que le programme de l'Union est extrêmement chargé dans les prochains jours. Tu l'as dit déjà pour la double confrontation contre Anderlecht en coupe et en championnat. Après, c'est de nouveau chargé. Alors ils ont le derby contre le RWDM, puis ils vont à Genk et ensuite. Ils jouent la Coupe d'Europe.
Le match contre Francfort.
Le match contre Francfort, où ils ne partent pas favoris.
Non. Quand tu vois la Conference League, Francfort, pour moi, est plus favori que l'Union. Et Francfort a une carte à jouer après leur victoire il y a 2 ans en Europa League. Donc, l'appétit vient en mangeant chez les Allemands. Donc, mais après, ça reste un match de Coupe d'Europe. Ça reste des soirées uniques et épiques. On l'a vu l'année passée contre Union Berlin, quand Union Berlin était exceptionnelle. Que ce soit en championnat ou même dans les autres matchs de Coupe d'Europe, finalement, contre l'Union, ils se sont pris les pieds dans le tapis de manière phénoménale.
Et même l'Union n'avait pas à rougir de ces deux matchs contre Leverkusen, qui commençait déjà sa mue qu'elle est en train de réaliser cette saison.
Mais ça, Leverkusen avait déjà commencé contre Bruges. Ils avaient établi les bases du succès en échouant quelquefois, mais c'est justement dans cette adversité que tu vous trouves... les meilleurs pions, les meilleures idées, les meilleurs concepts pour construire dessus. Et la preuve en est, ils ont combien ? 7 points d'avance sur le Bayern aujourd'hui, je pense. Donc,
ils ont ça reste à vérifier, mais effectivement, ils sont bien en avance. Bon, on va vite faire un petit détour, vu qu'on parle de Leverkusen. Leverkusen qui 7 points, c'est ça, avec un match en plus. Leverkusen qui a souvent été surnommé le Neverkusen parce que dans les moments importants, dans les gros moments, ça ne le faisait pas.
Est-ce que tu te rappelles avec Balak, ils étaient en finale de Ligue des Champions, ils perdent 2-1 contre le Real, ils étaient en finale de Coupe d'Allemagne, ils la perdent contre le Bayern, je pense, et ils perdent le championnat à la dernière journée contre le même Bayern.
Et Balak perd aussi la finale de la Coupe du Monde cette année-là, l'année pourrie pour Mikael. Balak, 15 matchs sans défaite pour l'Union, c'est impressionnant quand même.
Oui.
C'est... Peut-être, on parlait des 51 points tout à l'heure, peut-être que les 15 matchs d'affilée sans défaite, c'est aussi quelque chose en Europe. qui n'est pas trop réalisé. Il est 20h15 sur Radio Judaïka. Vous êtes dans l'émission On Joue, la prolongation, on débrief le week-end de Jupiler Pro League. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez raté le débrief d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez le retrouver sur nos différentes plateformes. On va passer à un autre match et là ça devient extrêmement compliqué pour le Sporting de Charleroi. Le Sporting de Charleroi, c'est pas trop une surprise, la défaite 4-1 contre l'Antwerp, mais Charleroi est le retour du Messi Felice Mazzu, ça fonctionne pas du tout. Le Sporting est 12e à 21 points, égalité de points avec le RWDM et 3 points d'avance sur Eupen. Et là c'est quand même une grosse défaite qui va faire mal.
Je sais pas si elle fait tellement mal parce que voilà, tu perds à l'Antwerp. Est-ce qu'il y a une honte à perdre 4-1 chez le champion?
C'est sûr que c'était attendu, mais cette saison c'est quand même un véritable chemin de croix pour Charleroi.
C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais oui, après je pense que Felici a quand même cette expérience. Et ce qui manque un peu, c'est dans cette équipe des joueurs qui ont lutté contre la relégation avant. Il y a Dan Heymans qui lui l'a vécu avec Beveren dans le temps. Mais tu as besoin de joueurs battants, tu as besoin d'une équipe qui a cette expérience. Et ça, Courtrai là, Eupen là, Westerlo là, Charleroi ne l'a pas, le RWDM ne l'a pas, non. Et le Standard ne l'a pas non plus.
Tu inclus le Standard dans cette charrette, si j'ose dire?
Ils ont combien de points?
23 points. Voilà. C'est 2 points d'avance sur le premier dans le tour de relégation qui est le RWDM. Le RWDM qui, pour l'instant, a un match en moins, si je ne m'abuse. Je ne sais pas s'il est comptabilisé. Ce match qui se passait hier face à Eupen. Donc, Charleroi, est-ce que la place de Mazzu pourrait être mise en question ou pour l'instant il conserve la confiance de ses dirigeants?
Je ne souhaite pas qu'il soit remis en question parce que il a quand même connu des passages difficiles là à la fin de l'Union, même si c'est lui qui part, enfin qu'il a été quand même poussé vers la sortie pour des raisons financières ignobles. Il y a eu ce passage à Anderlecht où ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, comme ça aurait pu, même s'ils avaient très bien commencé la saison. Et ici à Charleroi, il a bien terminé l'année passée et cette année, cette machine ne démarre pas ou quand elle démarre, elle s'arrête de nouveau quelques instants après. Et C'est triste, mais les statistiques ne mentent pas. T'as un goal average de moins 12 aussi. C'est pas terrible du tout. Mais voilà, je pense que c'est le... Avec Eupen, c'est la seule équipe dans les 9 derniers... Du 9e au 16e, c'est la seule équipe qui n'a pas encore changé de coach.
Ouais. Et ça reste une valeur sûre de notre championnat, quoi qu'on dise, et comme tu l'as rappelé, les périodes du turbulence qu'il a vécu ces derniers temps, il reste quelqu'un sur qui on peut se reposer très très facilement.
Oui,
surtout à Charleroi où c'est chez lui, c'est son environnement.
Les supporters, mais il connaît le club, il a l'ADN du club. Il sait ce qu'il doit faire aussi dans cette lutte. C'est pas la première fois qu'il doit lutter contre une relégation certaine avec son club, même s'ils sont pas relégables pour l'instant, mais ils sont ex aequo avec le premier participant au play-down. Restons corrects, les 4 derniers du classement jouent les play-down, donc ça sera vraiment la chose à faire de pas être dans ces 4 derniers. Courtrai à 13 points, OHL en a 17, Eupen en a 18. Il me semble quand même que deux ou trois de ces équipes participeront à ces play-downs. Après, juste au-dessus, tu as Molenbeek, tu as Charleroi, tu as Westerlo, tu as le Standard en 2 points. Donc, y a une de ces grosses cylindrées de D1
qui sera dans ces play-downs. Et tu le rappelais, justement, on va passer au Standard. Le Standard qui a également perdu 1-0 face à Courtrai. 7 sur 30 lors des 10 derniers matchs. Virtuellement barragiste avec le match de Eupen qui se jouera cette semaine. La dernière heure titre une bonne tête de barragiste. T'en penses quoi?
Le titre est pas mal trouvé, donc big up pour ça. Ceci dit, oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas d'expérience dans ce groupe, il n'y a pas vraiment de qualité, il y a des problèmes financiers, il y a beaucoup de soucis à Liège, même si avec Ivan Leko, on en parlait la semaine dernière.
Ouais.
Je crois dur comme fer qu'Ivan Leko est un excellent entraîneur pour le Standard. Sa passion, sa fougue, son envie, ça oui, fit à 100%.
Il peut redonner un coup de boost ouais. à cette équipe.
Tu commences avec une défaite contre Courtrai qui est bon dernier.
Ouais.
Qui a 13 petits points. Ils en ont quand même pris 3 contre. Ils en ont pris 6 contre les deux Bruges. Et ils en prennent encore 3 contre le Standard. Donc, cette équipe, elle est dramatique. Et pourtant, elle prend des points au Standard. Donc, la différence maintenant, tu as 10 points d'avance. 10 points, ça reste beaucoup pour la dernière place, mais c'est dangereux.
Oui, bien sûr.
S'ils avaient gagné, c'était 16 points. Personne ne parle de crise. Et les cartes sont redistribuées tout à fait différemment.
C'est.
Tu n'as pas regardé le Standard?
Je n'ai pas vu le Standard, mais Standard Courtrai un dimanche après-midi.
T'as regardé Marseille hier?
J'ai regardé Marseille, bien sûr, mais ça on le gardera pour après. Van Huysden, capitaine, c'est un peu le symbole de ce navire qui coule, non?
Pourquoi?
J'ai l'impression qu'il enchaîne un peu les contre-performances. C'est lui le capitaine, c'est lui qui tient le bateau.
Oui, le Titanic. Hein.
il tient le Titanic. Ouais. Ouais. Ça s'enfonce du côté du Standard. Donc voilà, on le rappelle, 1-0 défaite contre Courtrai. 7 points sur 30 lors des derniers matchs. Le Standard qui est actuellement 10e avec 23 points, 2 points d'avance sur Westerlo et Charleroi. Un petit point au classement. Donc l'Union qui conserve sa première place, 51 points. Anderlecht 43, Gand 38, Bruges 37, Genk 35 et Antwerp 35, ça c'est les 6 premiers qui seront donc qualifiés pour les playoffs. Et puis les 4 derniers, Molenbeek avec 21 points, Eupen 18, Louvain 17 et Courtrai 13. Il est 20h23 sur Radio Judaïka. On va faire un point sur les nouvelles de la journée. On a appris que Mbailey avait retrouvé un banc, Alex.
Oui, celui de Serein. Donc on a connu Mba évidemment comme consultant sur Club RTL, mais il était également entraîneur à Waregem, au Standard. On va pas être médisant en disant que ce n'était pas des énormes succès. Et là, Serein a connu une très très lourde défaite la semaine dernière contre les Framborins. Mmh. Et Grégory Promant, l'ancien milieu de terrain du FC Metz, qu'on a connu en Ligue 1 il y a 15 ans déjà, avait repris les rênes de l'équipe juste avant la trêve. Et là, il a requitté le navire. Et donc Mbailey se retrouve du côté du Perret jusqu'en fin de saison pour tenter de redresser la barre. Et ça va pas être facile. C'est dommage, Serein. C'est un club fort sympathique qui était en D1 dans les années 90, qui est descendu complètement, qui est réapparu. Et en l'espace de 2 ans, ils étaient remontés
en même temps que l'Union.
Ils sont remontés avec l'Union après une saison exceptionnelle en D1B. Et là, c'est le club ascenseur. Hein. Tu passes de la D3 à la D1 et peut-être de nouveau à la D3 en l'espace de 5 ans.
Donc là, ils sont 15e de Challenger Pro League avec 14 points. Et au stand des derniers. Au stand qui était aussi en D1 il y a peu.
Mais même en Coupe d'Europe, ils ont joué contre une équipe méditerranéenne.
un barrage, chose. J'étais d'ailleurs au stade, au stand. un barrage d'Europa League, l'année où l'Olympique de Marseille atteint la finale de la compétition. Un match donc un merveilleux 0-0 au stade d'Ostende en plein été. C'était très sympa, très fort sympathique.
Pour que tu sois, t'avais l'air de la mer.
Exactement. Et donc, ouais, donc voilà pour la Challenger Pro League qui est toujours, elle, qui est toujours menée par le Bear Scott, Zulte Waregem et Deins qui sont donc les trois premières équipes.
Il y a eu beaucoup de matchs annulés, mais pas trop. Essen a fait une très très bonne affaire en gagnant à domicile et il se retrouve vraiment bien ancré à la quatrième place, 31 points. Je me demande si cette équipe va pas être outsider pour la place de barragiste et pour la montée en D1 aussi.
Ouais,
en tout cas, je souhaite pas au club de les affronter pour ces barrages parce que ça peut faire mal.
Tu nous rappelles le mode de montée et de descente?
Alors,
Alex,
on a les quatre derniers de division 1, donc 16 qui est Courtrai, 15 qui est OHL, 14 Eupen et 13 RWDM pour l'instant. Ces équipes-là joueront sans division des points dans une poule, les uns contre les autres. Okay. Mais comme il n'y a pas de division des points, les écarts restent. Donc Courtrai doit faire un parcours presque parfait pour espérer même se retrouver barragiste, pour l'instant en tout cas. Et donc les deux derniers descendent. Le deuxième avant-dernier jouera un barrage. Les deux derniers sont remplacés par les deux premiers de division 1B, qui sont pour l'instant le Bear Scott et Zulte Waregem ex aequo avec 33 points. Et le troisième, quatrième, cinquième, sixième de D1B jouera également une mini-compétition avec préservation des points, mais là ça change pas grand-chose parce que le troisième en a 32, quatrième 31, cinquième 30 et le sixième 29 pour l'instant. Eux joueront de nouveau l'un contre l'autre en mini-barrage 6 matchs. Et le vainqueur de ce mini-barrage de 4 équipes de division 1B jouera contre le deuxième de la ligue des play-downs de division 1. On s'y perd. Il faut avoir un doctorat en mathématiques pour se retrouver dans ces formules de compétition, mais on y arrive. Et donc le premier des barrages de D1B jouera contre le deuxième des barrages de D1A play-down et le vainqueur de cette double confrontation, je pense, restera ou ira en D1A l'année prochaine, et je pense que le compte est bon. Et pour l'info, les deux derniers de division 1B, eux descendront en National 1 en fonction de leur régime linguistique, c'est-à-dire en ACFF ou en Vlaanderen. Et donc pour l'instant, Ostende irait en Vlaanderen, Serein irait en National 1 à ACFF, sauf si le Standard vient à descendre. Donc là, à ce moment-là, c'est le SL16, donc les jeunes, les U23 du Standard qui jouent en D1B, eux seraient automatiquement rétrogradés pour ne pas avoir deux équipes du Standard dans la même ligue.
Bien sûr.
Et on va pas trop s'avancer, mais on peut quand même un petit peu. Ce sera l'Ockeren et la Louvière qui devraient remonter en D1B l'année prochaine. Des deux équipes qui sont première et deuxième du classement, ils ont quand même une avance de 19 et 13 points sur le premier non éligible à la montée, car pour monter de National 1 en D1B, il faut une licence. Mm-hmm. Et pour l'instant, il n'y a que l'Ockeren, la Louvière, la Gantoise, Virton et Visé qui demandent cette licence.
Eh bien, très bien. Merci Alex pour ce très petit complet reminder des montées et descentes en Belgique. J'ai complètement oublié quelque chose et Samuel a l'habitude de le faire toutes les semaines. C'est le Belge de la semaine, le Belge du week-end. Alors Alex, je te laisse
commencer.
Un peu au dépourvu.
Non, mais moi j'étais prêt, je sais qui est mon belge.
Alors en fait de ce que j'ai vu, moi je mettrais Leandro Trossard pour son parcours à Arsenal. On se souvient, il est arrivé à Arsenal il y a un an tout pile, avec quelques jours d'écart. À Arsenal, après un bras de fer avec Brighton, il a mis son premier but en 2024, le 21 janvier, c'est pas mal. Et donc voilà, je pense que ça pourrait être un point intéressant pour l'Euro 2024 qui arrive cet été, et une cartouche en plus pour le sélectionneur national Domenico Tedesco. De ton côté?
c'est pas du week-end, mais c'est de la semaine, comme notre grand Samuel Cujas l'a inventé. Non, c'est Toby Alderweireld. Il a quand même pris le soulier d'or, enfin, il a reçu le soulier d'or, mais il le mérite, la semaine dernière. Donc, il est jeune joueur anversois qui a fait ses classes au Beerschot, qui avait un accord avec l'Ajax Amsterdam dans le temps, et le meilleur jeune du Beerschot était automatiquement affilié en tant que jeune à l'Ajax. Il y avait Jan Vertonghen qui était là aussi. Mm-hmm. Et donc, il a quand même fait ses classes à l'Ajax. Il est parti à l'Atlético Madrid. Il a été à Tottenham ensuite. C'est quand même une très belle carrière. À FIFA, on aimerait bien jouer avec ses clubs. Et en tout cas, recevoir des offres pour y entraîner. Et puis, il est parti dans le désert au Moyen-Orient avant de revenir par la grande porte à Antwerp. Et là, tout le monde s'est dit, oula, qu'est-ce qu'il vient faire en Belgique? Ben, il vient gagner un titre, il vient gagner une coupe, gagner une super coupe et il vient gagner un soulier d'or. Tout ça en l'espace de 7 mois, on va dire. En tout cas, depuis mars 2023. Chapeau bas, j'ai envie de dire, parce que pour un défenseur qui gagne ce soulier d'or et qui marque le but du titre.
Oui, j'avais parlé du but du titre.
Et qui lève tous les trophées. Chapeau bas. Un des meilleurs joueurs belges aussi. On le voit au nombre de caps. On le voit pour ses sélections, ses tournois internationaux. Sa carrière aussi. Atlético Madrid, Tottenham, Ajax. C'est quand même très joli. Donc voilà. C'est pour moi le belge de la semaine. Si c'est pas cette semaine qu'il l'est, il le sera jamais.
Tu mentionnais son compère pendant plusieurs années en club et en équipe nationale, Jan Vertonghen. Quand ils sont revenus tous les deux dans le championnat, on s'est dit ça va être compliqué pour eux. Ils sont plus dans la fleur de l'âge.
Jan est plus âgé. Quand même.
C'est vrai, Jan Vertonghen est plus âgé, mais pourtant c'est plutôt une réussite ces deux retours.
Oui, tout à fait.
Les deux, bon, Alderweireld, ouais, mais Vertonghen aussi.
Mignolet aussi.
Mignolet aussi, c'est vrai.
Ouais. Je suis plus mitigé par rapport à Mignolet parce que c'est un gardien et donc ses floches se voient beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus palpable dans les paires de points de son équipe. Mais voilà, il y a quand même plusieurs internationaux qui reviennent au pays. Il y a Hazard qui revient aussi, même si lui il est encore moins vieux. Who's next? Fellaini?
Ah bah oui.
Witzel.
Ouais, Fellaini qui a été intronisé actionnaire de Framborin cette semaine, si je me trompe pas.
Non, mais il était déjà. Ils avaient fait un event où les supporters pouvaient aller.
D'accord. Donc bah voilà.
Comme faire ça. Une séance dédicace. Voilà. Sympathique, à Boussu.
Et les journalistes présents sur place lui ont demandé s'il comptait revenir en Belgique. Il n'a pas balayé cette opportunité. Il est resté assez
vague.
Assez vague, voilà, merci. Lui qui a terminé son contrat cet hiver de son côté, du côté de son club en Chine, dont j'ai oublié le nom. Je pense que c'était à Shanghai, mais je suis même pas sûr. Donc, voilà.
Son club chinois, tu n'étais pas obligé de le dire.
Voilà, son club en Chine. Il est 20h33 sur Radio Judaïka. On va revenir tout de suite après une pause musicale avec notre invité du jour. Et avec notre invité du jour, eh bien, on va revenir sur la situation du côté de Molenbeek au RWDM où, eh bien, vous le savez, eh bien, si vous ne le saviez pas, on vous le dit, le match a été interrompu hier contre Eupen. Il restait 5 minutes de jeu. Les 5 minutes restantes se joueront ce mercredi à 15h. Et donc match interrompu pour jet de projectiles et de fumigène sur la pelouse. Les supporters l'avaient prévenu, ils l'ont fait. Résultat, match arrêté et situation extrêmement tendue au RWDM aujourd'hui. On reviendra sur cela en détail. Et puis sachez aussi qu'aujourd'hui les supporters ont rencontré le propriétaire du groupe. Du propriétaire du club, John Textor, l'américain. 20h33, une petite musique et puis on se retrouve pour la suite de l'émission. de retour dans On joue la prolongation sur Radio Judaïka. On joue la prolongation que vous retrouvez sur les différentes plateformes de la radio, sur la page Facebook de la radio, site internet radiojudaïka.be, application Radio Judaïka. Et on se retrouve là. Et si pas, en direct sur le 90.2 FM. Il est 20h36. Chose promise, chose due. Nous allons parler de la situation au ROEDM avec notre invité du jour, Thibaut Wadin. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes donc supporter du ROEDM. Vous êtes déjà intervenu dans l'émission On joue la prolongation. Alors, on va faire court avec vous, Thibaut. Hier, donc, le match a été interrompu face à Eupen. Les supporters avaient dit cette semaine aux joueurs que s'ils ne gagnaient pas, le match serait interrompu. Ils l'ont fait. Vous, en tant que supporter, comment est-ce que vous vivez cette situation?
Ben clairement c'est triste hein. Après c'est vrai que la vidéo justement des supporters qui étaient venus rendre visite aux joueurs la veille du match avait déjà pas mal tourné sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc on se doutait bien qu'en effet si Eupen était amené à mener face à nous à l'approche de la fin du match, qu'il y avait de grandes chances qu'il passerait à l'acte comme ce supporter l'avait annoncé la veille. Donc personnellement moi je trouve ça très triste. Je pense que en effet on n'est pas au top de notre forme et qu'au final rien n'est encore fait. C'est vrai que c'était un match important, ça nous en cas de victoire ça nous permettait je pense personnellement de nous mettre quand même relativement bien à l'abri puisqu'on les résultats des autres matchs étaient plutôt en notre faveur ce week-end. Donc c'est dommage. Et globalement, je suis toujours contre les supporters qui mettent fin à un match ou en tout cas qui sont au-dessus des lois et qui font en sorte qu'un match ne puisse pas aller à son terme. C'est déjà arrivé régulièrement en Jupiler Pro League et malheureusement, cette fois-ci, c'est le club que je supporte. Qui connaît cette même mésaventure.
Justement, c'est une petite frange du stade Edmond Martens. C'est quoi l'ambiance au stade au moment où le match est arrêté et que ces dizaines de personnes l'ont décidé sans consulter?
Un peu la désolation. Hein. Je pense que, comme vous le dites, il doit y avoir 99,2% des supporters qui étaient déçus du résultat, mais qui voulaient de toute façon que le match aille au bout. Un match de foot, ça dure au moins 90 minutes, donc on ne sait pas ça. Et d'ailleurs, il va durer 90 minutes au final, mais on gardait un mince espoir et donc c'est vraiment. En tout cas, ce que j'entendais autour de moi, c'était plus la désolation que ce match n'aille pas au bout. Il y a certains supporters qui étaient quand même pour l'action des personnes qui ont été au stade samedi pour l'entraînement, de vouloir un peu leur remonter les bretelles. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire personnellement, mais c'est triste. Globalement, c'est triste et je me mets aussi à la place des joueurs de peine qui vont pouvoir se faire un sacré aller-retour mercredi après-midi pour jouer 6 minutes à huis clos au Stade Martens. C'est un peu du surréalisme à la belge de nouveau, mais voilà, comme quoi apparemment certains un peu quelques énergumènes peuvent engendrer ce genre de choses. C'est dommage de voir ça dans les stades belges et je le répète encore plus dommage de le voir au Martens, au Temple.
Oui, parce qu'il faut savoir, Thibaut, finalement, ce match et ces 6 minutes qui vont durer une éternité pour Eupen, c'est le résultat de la jurisprudence de Charleroi-Malines l'année passée, le match qui a été arrêté. Et là, on a décidé, on a changé les règles cet été pour cette saison, que le match va se terminer, que les supporters ne peuvent pas avoir le pouvoir de décider de qui va gagner un match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il y a eu Union Berscott, il y a eu Charleroi-Malines, il y a eu Antwerp Berscott, il y a eu le Standard à plusieurs reprises contre Anderlecht aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cette règle. Et donc, effectivement, c'est absurde parce que pour l'avoir vécu par le passé, c'était 45 minutes à Serein, mais ça dit vulgairement, ça ennuie vraiment tout le monde de se déplacer pour ça. Mais ici, c'est encore pire. Les joueurs de PEN, ils vont faire 1h30 de route minimum pour arriver à Bruxelles. Ils vont devoir s'échauffer. Ouais. Ils vont devoir être là 2 heures à l'avance, comme le protocole de la Pro League le précise et tout. Ils vont jouer 6-7-8 minutes face à un Molenbeek qui, pour moi, Claudio Cazzapa, à ce moment-là, il doit être malin. Hein. Tu mets tout à l'avant, perdu. Tu dois faire pour faire 1-1 et 2-1. Et donc, Eupen va se retrouver dans cette situation, mais complètement absurde, de devoir terminer ce match et après devoir de nouveau prendre 1h30 pour aller à Eupen. Et donc, certains joueurs, ils n'auront pas eu entraînement ce jour-là, ils auront entraînement au soir à Eupen. C'est absurde. Et si Eupen perd, je suis sûr qu'Eupen va en justice aussi.
Oui, ce que je comprendrais tout à fait. Et en effet, c'est, comme vous le dites, c'est jurisprudence des matchs des saisons précédentes. Je pense pas qu'ils aient déjà trouvé la bonne formule. Je pense que c'est de toute façon dommage qu'il y ait une formule à trouver. Un match devrait pouvoir se terminer dans tous les cas, quel que soit le stade, quelles que soient les équipes. Donc,
oui, parce qu'il y a la sécurité et c'est la police. Finalement, c'est le responsable de la police sur place qui décide. Et si pas, c'est le bourgmestre ou le maire de la ville. Mais donc ici, en l'occurrence, c'est le responsable de la zone de police Bruxelles-Ouest qui tu ne peux pas faire sortir X milliers de supporters du stade pour terminer ce match à huis clos après. Sinon, c'est un bordel pas permis non plus. Donc, c'est un fléau, c'est très compliqué. Et toi, Thibaut, tu y étais. Il y a eu des coups de sifflet. Quelle était ta première réaction quand tu comprends, voilà, le match va être arrêté, on a une demi-heure ici
Pareil, hein, comme tu dis, des coups de sifflet, en effet, un peu de la désolation. J'entendais des supporters dire que c'est pour eux, c'était plus nécessaire de venir au stade, qu'ils étaient un peu dégoûtés de.
Ah oui, on en est à ce point-là.
Oui, quand même. Et pourtant, c'est sorti de la bouche de supporters depuis toujours, qui ont tout connu avec le RVDM. Et quand je dis tout connu, c'est que certains semblent oublier aussi qu'il y a 7-8 ans, on jouait en Détroit amateur contre Profondeville et que donc c'est la première année qu'on remonte en D1A. On est loin d'être sûr d'y rester, mais on est loin d'être sûr de ne plus y être non plus. Donc je pense que en tant que supporter, tout ce qui nous reste à faire, c'est pousser les joueurs sur la pelouse à donner leur maximum. Je pense en effet que certains ne l'ont pas fait à Ostende pour je ne sais quelle raison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est brisé avec le coach aussi. Je ne suis pas à l'intérieur du club et ce n'est pas à moi de prendre ce genre de décision. Mais de toute façon, oui, je pense qu'il y a du travail à faire au club. Mais ce n'est pas aux supporters de le faire.
Thibaut, votre président, votre propriétaire plutôt, John Textor, il est arrivé il y a un an et demi, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, vous en faites quel bilan?
C'est particulier. Le problème aussi, c'est que Textor, avec ses différents clubs, il est quasiment constamment dans l'actualité, que ce soit via Molenbeek ou via Lyon actuellement, Botafogo, ça s'est pas toujours bien passé non plus. Je pense que déjà, sans Textor, on ne serait pas encore en D1A. Peut-être pas avant tout de suite d'ailleurs. Donc, clairement, son apport a été positif dans un premier temps. Ça se voit aussi aux infrastructures. Je pense que la pelouse du Mactens était avant son arrivée, vraiment loin d'être un billard et le billard qu'il a actuellement. Donc, niveau infrastructure, déjà, il y a eu pas mal de travail. On est monté l'année passée. Je pense que cette année, il y a eu des transferts loupés, notamment de joueurs venus de la Galaxy Textor ou la Galaxy Eagle. C'est selon, mais... Là où le bas blesse cette saison, c'est aussi justement qu'il y a énormément de blessures et qu'au final, on a régulièrement dû jouer avec une équipe bis, avec même des joueurs qui, l'année passée en D1B, n'avaient pas forcément voix au chapitre. Donc, on a perdu des points en fin de match aussi. Donc, je le dis, pour le même prix, on pouvait déjà être à l'abri. On ne l'est pas. On est encore en plein mercato, donc Textor a l'opportunité de prendre ses responsabilités en tant que président aussi. Donc à voir ce qui va suivre
Justement,
jusqu'à la fin du mois.
il a dit dans la réunion avec les supporters que de nouvelles recrues allaient arriver, au moins un milieu de terrain et un attaquant. On parle de Tayo Adaramola de Crystal Palace et Chris Makoso du FC Sochaux pour la défense. Il y a un point, oui aussi, j'ai oublié de le dire, on rappelle que le club a donc écopé de 50 000 euros d'amende, ça a été confirmé aujourd'hui dans l'après-midi. Il y a un point que j'avais envie aussi d'aborder avec vous, et ça c'est vraiment sur le terrain, c'est les performances de Jeffrey Adelaide. Jeffrey Adelaide était considéré comme un très grand espoir du championnat de France les dernières années. Il a eu connu de nombreuses blessures. Vous jugez comment les prestations de Ren Adelaide, qui devrait être votre leader technique?
Mais c'est bien simple, c'est que tout le monde le sait qu'il doit être notre leader technique, et à mon avis, lui le premier. Il ne l'a pas encore assez montré à mon goût, mais quand il l'a montré, c'était assez clair, quoi. Donc, il doit encore montrer plus, mais il est déjà évident, même sans faire des grands matchs, qu'il est le leader technique, et que ça doit venir de ses pieds d'ailleurs. Contre Saint-Tron avant les fêtes, il avait été bien meilleur, dans un rôle aussi plus bas sur le terrain, où il pouvait vraiment dicter un peu le tempo du match. Et ça s'était soldé sur une belle victoire 3-0 contre Saint-Tron. Donc je pense que non, clairement, ça doit être le leader technique de cette équipe. Et son pédigré fait qu'il est vraiment au-dessus du lot. Par moment, malheureusement, pas encore assez de manière assez régulière, mais s'il parvient à être épargné par les blessures, et que petit à petit il reprenne confiance et qu'il soit dans de meilleures dispositions, ça peut clairement être le facteur X qui permettrait à Molenbeek de se maintenir en D1A.
Thibaut, pour cette fin de saison 2024, on vous souhaite quoi? On vous souhaite un apaisement et un maintien en Division 1?
Mais je pense que les deux sont liés. En cas de maintien en Division 1, l'apaisement viendra de lui-même, du moins je l'espère, parce que ça restait l'objectif premier en début de saison, c'était de se maintenir en D1A. Et compte de fait, façon Union Saint-Gilloise, ça n'arrive pas tout le temps, et l'Union prouve d'ailleurs que c'était dû à un beau travail des dirigeants. Donc moi, je serais déjà très content si on parvient à se maintenir en D1A. Et on espère partir sur de bonnes bases pour la saison suivante.
Donc on le rappelle, hein, le RWDM qui est donc maintenant dans les positions de relégables, qui est 13e avec 21 points en 21 matchs. Thibaut Wadin, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka dans On joue la prolongation pour évoquer la situation au RWDM, et puis à bientôt dans de meilleures conditions, on l'espère.
Merci, avec plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
C'est assez triste ce qui se passe.
Oui, mais tu l'entends dans la voix de Thibaut aussi. Ça affecte, comme il dit, 99,2% des supporters de Molenbeek. Il n'y a pas que les ultras ou les casuals qui s'approprient le club. Il y a beaucoup d'autres gens aussi qui sont très attristés, qui sont avec leurs enfants au stade et qui doivent expliquer. Alors, va expliquer à ton enfant de 7 ans pourquoi le match est arrêté.
Ouais,
c'est pas évident.
Aussi, bon, ça c'est peut-être un peu moins étonnant, mais la violence des propos aussi tenus par ces supporters à l'encontre des joueurs, des dirigeants, de l'entraîneur,
la forme n'y est pas. Après, on était cloîtrés chez soi, ou d'autres étaient cloîtrés sur la route, malheureusement pour eux, mercredi soir. Bon, j'ai regardé un morceau du match au stand Molenbeek. C'était affligeant, c'était une purge. Il y avait que Pierre Dewo qui était vraiment, qui avait envie, qui essayait, mais un joueur face à 11, C'est triste.
En fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas trop envie d'être là, quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
Certains ne veulent pas être là, d'autres sont un jeu de passe-passe, de... entre les clubs, et il y a cette bulle multi-club qui j'allais dire qui enfle, mais elle n'enfle plus tellement. Je pense qu'on va arriver à un tournant de ce genre de multipropriété de clubs international.
Ça va... Ou tu penses que ça va s'arrêter ou...
Je pense que ça va être beaucoup plus encadré bientôt. Ouais. Enfin, je pense pas, je suis sûr.
Ouais, parce que là, on l'a vu sur plusieurs dossiers où des clubs en fait peuvent quasi jouer la Ligue des Champions maintenant avec les mêmes propriétaires et
t'as pas le choix.
Enfin, par exemple, prenons le dernier en date, c'est Manchester United et l'OGC Nice qui pourraient se retrouver tous les deux en Coupe d'Europe. Potentiellement. Hein, c'est...
Oui, après, Radcliffe a 25% de Manchester.
Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est sûr.
Après, tu prends les 10 plus grandes galaxies de clubs. Tous ne jouent pas la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de propriétaires de clubs qui, on va prendre 777 par exemple, ils se retrouvent à Gênes, ils se retrouvent à Séville, ils se retrouvent à Kaiserslautern, au Standard, quelques clubs comme ça. Ils ne jouent pas tous la même Ligue des Champions et a fortiori même la Coupe d'Europe.
Oui, bien sûr.
Tu as quand même. Il n'y a pas un propriétaire qui est derrière 4-5 clubs du top dans chaque pays. Ça n'existe pas. Ça coûterait beaucoup trop cher, en Amérique. Oui. Donc, je trouve que ça doit être beaucoup plus régulé. Ça va être beaucoup plus régulé par les instances FIFA, UEFA très bientôt.
Il nous reste 5 minutes. Didier Cohn nous fait remarquer sur la page Facebook que c'est le PSV Eindhoven qui est roi d'Europe cette année avec 17 victoires d'affilée et un match nul. Cette semaine, il y avait un match où je voulais revenir rapidement avec toi, Alex. C'est le Bruxellico qu'on a joué en Coupe d'Afrique des Nations hier entre le Maroc et le Congo. Un but partout et un match qui s'est...
Je suis déjà très content qu'il n'y ait pas eu de grabuge à Bruxelles.
Un match qui s'est illustré par une petite bagarre générale entre les différents acteurs, notamment entre le joueur congolais Chancel Mbemba et l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui. Donc les deux clubs restent en tête de leur poule. Le Congo a 2 points, pareil que la Zambie. Le Congo va affronter la Tanzanie qui est dernière du groupe. Donc normalement, ça devrait passer pour le Congo et le Maroc dans cette suite de... Coupe d'Afrique des Nations. On va faire un rapide tour des résultats qu'il y a eu aussi. La Zambie qui a fait un partout contre la Tanzanie. L'Afrique du Sud 4-0 contre la Namibie.
Coaché par Hugo Broos.
Coaché par Hugo Broos, effectivement. Bien vu, Alex. C'est vrai qu'on l'a revu sur les pelouses. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé 3-2 face à Almeria et le Barça 4-2 face au Betis. Le Real reste bon premier. Ah non. Non. En fait, ils ont un match de retard. Donc, le Real Madrid est deuxième derrière Gironde, qui a, eux, à 52 points. Le Real, 51. En Coupe de France, on a vu l'élimination du Stade de Reims face au FC Sochaux-Montbéliard. C'est joli de voir ça pour Sochaux après...
tout ce qu'ils ont connu.
Après tout ce qu'ils ont vécu cet été.
Presque faillite, repreneur, pas repreneur. Ils font un beau parcours, ils le méritent. C'est un club mythique français aussi, issu de Peugeot. On en a parlé dans les minutes Sportimize aussi.
On n'a pas fait la minute Sportimize, Alex.
On termine avec ça.
C'est complètement sorti de la tête.
On termine avec ça. Sochaux, c'est un superbe club. Et c'est ça, cette magie de Coupe de France aussi. Et voilà, cette semaine, on a la Coupe de Belgique aussi qui arrive. Donc, c'est cette magie de la Coupe. Ouais. Elle vit en France et elle devrait vivre comme ça en Belgique aussi. Et tu as des petits clubs, des Saint-Priest, etc., qui s'affrontent d'autres petits clubs et qui se retrouvent en 8e de finale.
Ouais, c'est vrai que c'est génial. Et puis aussi, Marseille. Qui perd face à Rennes au penalty, donc tirage au sort de ces huitièmes de finale cette semaine. C'est l'heure de la minute Sportimize. On va parler logo cette semaine dans les minutes Sportimize.
Tout à fait. On va aller en Angleterre, comme la semaine dernière, mais on va aller à Birmingham, donc du côté d'Aston Villa. Aston Villa qui réalise une superbe saison. Ils sont quatrième ex aequo avec Arsenal. On a nos Belges, Tielemans, Dundonker. Bon, ils ne jouent pas tellement car Unai Emery a trouvé le bon rythme avec son équipe. Mais toujours est-il que malgré cette magnifique saison, malgré cette quatrième place qui est peut-être synonyme de Ligue des Champions, malgré que Villa Park sera un des stades du futur Euro en Angleterre d'ici 4 ans, eh ben, les supporters sont furieux. Et pourquoi ? Parce que le club a changé de logo et de blason en début de saison. Et là, on se dit, on est dans une situation comme on l'a connue à Reims, à Nantes ou à la Juventus. Et ça, pour rappel, les clubs avaient sorti un logo très épuré avec uniquement des formes géométriques et des lettres, en fait. Mais là, du côté d'Aston Villa, c'est pas du tout ça. En fait, ils ont ressorti leur logo d'origine de 1874. Et ils se sont dit, les supporters vont adorer. À titre personnel, et je vous invite tous à aller voir ce logo, je trouve franchement très réussi.
Il est très beau.
Un beau petit rond, le club en doré, le nom. Mais les supporters ne l'aiment pas. Et ils préféraient leur blason qui était plus rectangulaire jusqu'à l'année passée avec le lion en doré ou en jaune dans ce logo. Et donc, depuis le début de saison, en fait, les supporters sont très mécontents, que ce soit sur le maillot, sur le merchandising. Il y a beaucoup de plaintes et le club, pris de panique, a décidé de faire marche arrière. Et donc, dès la saison prochaine, ils vont réintroduire l'ancien logo. Sauf qu'en cherchant un petit peu, je m'aperçois quand même qu'Aston Villa, depuis son existence, ils ont quand même changé pas mal de fois de logo. Et que finalement, le logo qui a été réinstauré maintenant, donc le logo d'origine, c'est celui qui avait la plus longue longévité dans l'histoire du club. Mmh. Et finalement, les supporters, on se dit, ils sont attachés à leur logo, on aime ça, et on l'avait vu du côté de Bordeaux, de Saint-Etienne, de Norwich, même Genk, il n'y a pas si longtemps, la Fiorentina. Ils n'avaient pas utilisé des formes trop épurées, ils avaient repris les bases des anciens logos, et là, ça a été apprécié, sauf qu'à Villa, visiblement, c'est un flop total, et donc dès l'année prochaine, on reverra l'ancien logo chez les Villains en Première Ligue, et peut-être en Ligue des Champions. Affaire à suivre.
Comme quoi, les supporters ont un rôle à jouer dans les décisions de leur club. On en parlait sur...
Mais ils n'ont pas arrêté leur match.
Ils n'ont pas arrêté leur match. J'ai oublié de vous dire quand même pour les résultats de la CAN que la Côte d'Ivoire s'est inclinée lourdement. La Côte d'Ivoire qui organise la compétition. 4-0 face à la Guinée équatoriale qui est donc troisième de son groupe. Et même si les meilleurs troisièmes se qualifient, qui est quand même mal posté. Autre chose avant de terminer, on apporte évidemment tout notre soutien aux gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan, Mike Maignan, victime une nouvelle fois d'insultes racistes dans un stade italien, match arrêté et puis match repris, lui qui a reçu un soutien de une grande partie du monde du football. Voilà, Radio Judaïka lui adresse également son soutien. Il est 20h59, Alex, merci et à la semaine prochaine.
Merci Blaise, on se voit lundi, même heure, même endroit.
On se voit lundi, même heure, même endroit. Passez une bonne soirée. Le retour de l'information, c'est dès demain, 7h dans la matinale, en compagnie de Liz Benkemoun et Didier Cohn. Je vous retrouve également demain matin. Bonne soirée, au revoir. Judaïka.